L'anime royale, peu de textes historiques de l'époque moderne sont aussi connus pour les modernistes que ce fameux ouvrage de 1707. Et pourtant, peu ont été aussi mal lus au regard de la question posée, sauf par les services concernés. Et c'est aussi tout à fait rassurant. Donc voilà ce qu'en disait Michel Chamillard, donc contrôleur général des finances et secrétaire d'État à la guerre, au moment de la parution de cet ouvrage. Si Monsieur le Maréchal de Vauban avait voulu écrire sur la fortification et se renfermer dans le caractère dans lequel il avait excellé, il aurait fait plus d'honneur à sa mémoire que le livre intitulé « La dîme royale » ne fera dans la suite. Ceux qui auront une profonde connaissance de l'état des finances de France et de son gouvernement n'auront pas de peine à persuader que celui qui a écrit est un spéculatif, qui a été entraîné par son zèle à traiter une matière qui lui était inconnue et trop difficile par elle-même pour être rectifiée par un ouvrage tel que celui de Monsieur de Vauban. Mais, à part donc les services du contrôle général, le livre a au contraire été encensé jusqu'à aujourd'hui. Pour commencer par le point de vue le plus récent et qui n'a guère que 8 jours, je citerai Thérèse Delpech, économiste, conseiller du prince en matière de relations étrangères, enfin un de nos grands commis de l'État, normalienne, agrégée de philosophie, etc. J'ai entendu sur France Culture, parce qu'elle vient de publier un bouquin, là, tout à fait récemment, encenser encore le projet de Vauban, symbole de la justice, etc. Donc ce n'est que pour le plus récent. Mais la légende s'est emparée de la dîme royale dès le début, avec le duc de Saint-Simon, qui, dans ses mémoires, a donc fait mourir de chagrin Vauban du refus de son projet par le roi. Le malheureux maréchal, porté dans tous les cœurs français, ne put survivre aux bonnes grâces de son maître pour qui il avait tout fait, et mourut peu de mois après le dépôt de la dîme royale, ne voyant plus personne, consommé de douleur et d'une affliction que rien ne put adoucir et à laquelle le roi fut insensible, jusqu'à ne pas faire semblant de s'apercevoir qu'il eût perdu un serviteur si utile et si illustre. De fait, le maréchal de France, qui n'était pas dans le genre dépressif, avait 73 ans, 52 ans de service, 40 ans de voyage, une bronchite chronique et mourut d'une embolie pulmonaire. Au XIXe siècle, les économistes libéraux vont vouloir faire de Vauban l'un des leurs. Et c'est ainsi qu'en 1891, Alfred Espinasse, dans son Histoire des doctrines économiques, traite Vauban dans sa section 1 du chapitre 2, les précurseurs des physiocrates Vauban, donc Bois Guilbert et d'autres. Inutile de dire que les physiocrates, Mirabeau, Quesnay, Dupont de Nemours et autres, devaient faire des bonds dans leur tombe. Eux qui étaient des grands défenseurs de l'imposition sur le produit net quand Vauban voulait imposer le produit brut, et qui étaient des promoteurs du laisser-faire quand Vauban renforçait au contraire les interventions de l'administration royale. Mais à la fin du XIXe siècle, les manuscrits sortent peu à peu des placards, les textes deviennent plus accessibles. Et en 1896, la revue historique dissipe les illusions. Vauban appartient au grand nombre d'écrivains que l'on nomme souvent et que, hélas, on lit rarement. On représente d'ordinaire l'auteur de la dîme royale comme un réformateur libéral en matière de politique économique. Mais les auteurs français les plus récents ont dû reconnaître qu'au fond, le maréchal avait été mercantiliste. Découverte abominable. De ce jour, les économistes ne s'intéressent plus à Vauban, qui passe aux mains des historiens. Première édition scientifique par Émile Cornette en 1933, et l'œuvre de Vauban entre alors brillamment dans le champ de l'histoire des idées. Il manquait cependant une lecture en son temps et proprement fiscale du projet fiscal du maréchal. Je me suis efforcée de la donner à l'occasion de la première publication des œuvres complètes de Vauban en 2007 pour le tricentenaire de la mort du maréchal. Et si le calendrier commémoratif m'a donné une belle occasion, on peut dire que les réformes gouvernementales de la même année et celles dites donc du bouclier fiscal m'ont donné aussi en même temps une nouvelle formulation problématique pour analyser un des aspects du projet de Vauban. En effet, une lecture attentive du projet de dîme royale permet de voir surgir une sorte de bouclier fiscal pour les deux ordres privilégiés, noblesse et clergé, contrairement à la volonté d'imposition universelle affichée par Vauban au début de son travail dans le chapitre qu'il intitule « Maxime fondamentale ». Vous voyez ici donc les trois premières des maximes fondamentales, il n'y en a que cinq en tout. Premièrement, une obligation naturelle au sujet de toute condition de contribuer. Et la troisième est tout aussi explicite, que tout privilège qui tente à l'exemption de cette contribution est injuste et abusif. Donc c'est en traquant au plus près les conditions d'application induites par le projet de Vauban que l'on s'aperçoit de la chose qui, de toute évidence, n'a pas été perçue par son auteur et, évidemment, a fortiori, encore moins voulue. Donc pour reprendre encore une expression récente, on pourrait dire que ce bouclier fiscal a été établi à l'insu de son plein gré par Vauban. Certes, il avait conscience de l'imperfection de son texte. Il savait qu'il n'était pas un spécialiste de la fiscalité et l'avait dit à Louis XIV, lui demandant de réunir quelques intendants de province pour faire des expériences sur le système proposé et élaborer des modalités techniques. C'est donc finalement la réalisation de ce bouclier fiscal de fait est donc encore plus intéressant que le nôtre, si j'ose dire, entre guillemets, parce qu'il relève de la structure mentale du maréchal, dont les outils d'analyse de la société de son temps et les catégories intellectuelles fonctionnent de fait au profit de l'ordre installé, parce qu'un autre n'est pas imaginable à son époque. C'est ainsi, fondamentalement, que la dîme royale n'est pas un texte révolutionnaire, car les concepts à l'œuvre ne permettent pas de prendre de distance critique suffisante par rapport à son environnement. Et cette absence des outils n'est pas des outils conceptuels, parce que des outils techniques nouveaux, il y en a, on les reverra, n'est pas comblée par une descente suffisante dans les détails d'application qui aurait permis, justement, à Vauban, comme elle l'a permis à toute l'équipe du contrôle général, de mettre le doigt sur les difficultés et les contradictions, à moins qu'il ne l'ait senti en se défaussant justement sur les techniciens, les intendants, pour la mise à l'épreuve de ses propositions. Alors, en quoi consiste exactement ce projet de Vauban ? Je ne reviens pas sur l'analyse des circonstances de façon détaillée qui ont conduit Vauban à élaborer ce projet. Je signale simplement que c'est constatant les difficultés du trésor royal, premièrement, dans l'ordre, c'est très important, et celles des campagnes secondairement, dans les années 1690, qu'il va faire porter la responsabilité de cette situation difficile à trois facteurs dans l'ordre donné par Vauban, et là aussi l'ordre est très important. Donc premier responsable, le système fiscal. Deuxième responsable, beaucoup plus secondairement, la guerre. Et troisième responsable, fort marginalement, la conjoncture économique. Donc j'ai mis la courbe pour que chacun apprécie où est-ce qu'on en est. On est ici, hein, donc là c'est le grand pic de la succession d'Espagne, donc c'est la situation du trésor. Hein. Mais donc cette guerre de succession d'Espagne, elle est commencée, mais on n'est pas encore dans le pic 1709, puisque la dîme royale c'est 1707. Donc il écrit plutôt à la lumière de la conjoncture de la guerre de la Ligue d'Augsbourg 1693-1694 et du fameux hiver 1693-1694. Mais pour lui, ce qui prime, et on peut penser que sa personnalité de militaire, pour aller vite, n'y est pas pour rien, c'est la conjoncture financière du trésor qui lui pose problème avant tout. On peut dire que l'historien d'aujourd'hui inverserait l'ordre des causes et mettrait en numéro un, pour expliquer les problèmes du royaume, la conjoncture économique dramatique de cet hiver-là, ensuite la guerre et enfin le système fiscal. Mais Vauban, en pratique, est aussi conduit à réfléchir sur le seul point qui lui donne prise, puisqu'il n'a pas de moyen d'agir ni sur le climat, naturellement, ni sur les choix politiques du roi. Dès le départ, nous avons donc dans la dîme royale un effet de zoom qui surestime très certainement l'impact du système fiscal mais qui a le gros intérêt d'essayer de lier dans la mécanique du système fiscal l'enrichissement du royaume et celui du roi. Car l'objectif de Vauban est bien la gloire du roi et pas le bonheur des peuples. Nous ne sommes pas au XVIIIe siècle, autre époque. Aussi, Vauban va construire une analyse et un système autour de difficultés techniques qu'il pointe, réelles, mais sont-elles décisives? C'est là toute la question, et aujourd'hui on répondrait plutôt non. Donc, difficultés techniques du prélèvement de la taille, impôt direct, impôt de répartition acquitté en argent. Il pointe les difficultés comme les tensions entre individus, les besoins en personnel administratif, les défauts d'information permettant une assiette équitable, les inégalités ou mieux les différences du régime de l'impôt lui-même, puisque nous avons déjà deux sortes de tailles, la taille réelle au sud du royaume qui n'est qu'un impôt foncier sur la propriété, la taille personnelle dans les deux tiers nord du royaume, qui est un impôt sur le revenu de toutes les personnes roturières. À difficulté technique, il cherche une solution technique simple permettant d'éviter intermédiaires et procédures, assurant la justesse de la répartition et par là même facilitant la rentrée des recettes, soulignant donc que le système en lui-même n'est jamais interrogé. Sa solution est radicale, il s'agit d'établir un prélèvement en nature de proportion fixe. Ainsi seront éliminées complètement les considérations individuelles, source de discorde et d'inégalité, pour ne s'intéresser qu'à la matière imposable réputée neutre. C'est une démarche à 100% de réalité, on impose des choses, contre une démarche de personnalité où on impose des individus prenant en compte les situations de chaque contribuable. Telle sera aussi, 80 ans plus tard, la philosophie de la fiscalité de la Révolution française pour éviter tout privilège et pour rendre concret l'idéal d'égalité. Elle établit des impôts calés uniquement sur des éléments matériels objectifs, la valeur de la terre pour la contribution foncière, la valeur du loyer pour la contribution mobilière et le nombre de portes et fenêtres pour la contribution du même nom, la meilleure pour le législateur du moment, car elle pouvait s'établir de la voie publique sans aucune enquête. C'est donc un idéal de justice géométrique et de simplification qui sous-tend l'idée de Vauban, remplacer la presque totalité des impôts en vigueur par un impôt en nature de 10% sur tous les types de revenus. Ainsi serait assurée l'égalité, qu'il confond donc avec l'équité entre toutes les catégories sociales. Et par contre-coup, la protection des paysans, catégorie non pas motrice de la société, ce sera le point de vue des physiocrates du siècle suivant, au XVIIe siècle, le moteur, c'est la manufacture, mais catégorie la plus nombreuse et à ce titre la plus productrice de richesses pour le roi. À l'appui de son système, Vauban convoque d'abord l'exemple chinois. Et voilà ce qu'il a lu, il a pêché son information, les nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine par le père Louis Lecomte de la Compagnie de Jésus, mathématicien du roi. Mais l'exemple chinois, par son exotisme, avait surtout pour but de renforcer l'exemple principal, à savoir la dîme ecclésiastique, dont il nous présente une vision tout à fait idéale. Elle n'excite aucune plainte et depuis qu'elle est établie, nous n'apprenons pas qu'il s'y soit fait aucune corruption. Se lève partout, sans plainte, sans frais, sans bruit et sans ruiner personne. Cet argument du prélèvement en nature à proportion fixe, 10%, jamais retenu par la fiscalité monarchique et abandonné au XVIIe siècle par les plus modernes des paysans et des propriétaires au profit de fermages en argent, fut condamné vigoureusement au XVIIIe siècle par les physiocrates, défenseurs de l'imposition sur le produit net, trouvé dans le revenu du propriétaire, quand la dîme royale était au contraire une imposition sur le produit brut de l'exploitant, catégorie au contraire à protéger. Elle devait cependant garder une puissance, cette idée de prélèvement en nature, proportion fixe, une puissance de séduction considérable jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, surtout, il faut le dire, chez ceux qui n'étaient pas confrontés à la réalité concrète du prélèvement. En 1787 encore, quand le contrôleur général des finances Calonne voulut faire fonctionner une partie de sa subvention territoriale sur un prélèvement en nature, il se vit condamné comme esprit fumeux par l'unanimité du Conseil du roi, à l'exception de Louis XVI lui-même, qui prit la parole pour dire au maréchal de Castres qui conduisait le Conseil « Mais je vous assure, monsieur le maréchal, que vous vous trompez ». Clarté de la proportion, simplicité, ancienneté du système, généralisation sur tout le territoire, disparition des intermédiaires rendus nécessaires par les travaux de répartition, tels étaient les arguments frappants qui parlaient pour la dîme ecclésiastique et justifiaient son décalque par une dîme royale. On n'épilogera pas sur le fonctionnement idyllique de la dîme ecclésiastique, puisque, quelques pages plus loin lui-même, dans sa dîme royale, Vauban avoue, il est notoire qu'on fraude tous les jours la dîme ecclésiastique. Si les mouvements violents à son égard restent rares, Jean-Nicolas en dénombre une quarantaine entre 1661 et 1789, les fraudes, les grèves, les recours en justice, des milliers ou des dizaines de milliers, je cite Jean-Nicolas, remplissent pourtant les dépôts d'archives départementaux et les livres des historiens. On ne citera qu'un seul exemple contemporain de Vauban, celui de la révolte du papier timbré en Bretagne, 1675, où on peut lire à l'article 9 du Code paysan, ceci, hein, que les recteurs, curés et prêtres seront engagés pour le service de leurs paroissiens sans qu'ils puissent prétendre aucun droit de dîme novale ni aucun autre salaire pour toute leur fonction curiale. Donc, réclamation de la suppression de la dîme. Ajoutons que le modèle ecclésiastique n'était pas tout à fait satisfaisant, puisque le prélèvement de l'Église était surtout partiel, portant presque exclusivement sur les céréales. On dit mais peu sur les parcelles trop petites, sur les cultures nouvelles, sur les parcelles nouvellement défrichées. Les nobles aussi faisaient de la résistance aux dîmes sur leurs réserves. La généralisation d'un système à tout le royaume, fonctionnant dans un cadre finalement étroit, était une gageure conceptuelle et technique. En 1788, l'archevêque de Toulouse, Loménie de Brienne, donc futur contrôleur général des finances, prit des notes sur l'ouvrage de Vauban et lui-même doutait, pourtant bien placé pour connaître évidemment le fonctionnement de la dîme de l'Église, doutait de la bonté du modèle. Il reconnaissait un certain avantage à l'impôt en nature, à savoir l'indépendance à l'égard des fluctuations de prix. Mais il évaluait le coût de la perception de la dîme de l'Église entre 25 et 30% en moyenne, quand celui de l'impôt royal montait au grand maximum aux alentours de 12%. Mais la puissance évocatrice de l'image des céréales sortant de terre chaque année, de la vitalité intrinsèque de la nature, était si forte, objet de divinisation chez les anciens autour de tout le bassin méditerranéen, qu'elle rendait possible un modèle faisant une abstraction totale des individus et des conditions de production. Seul le produit naturel, dans le système de Vauban, était pris en considération. Les individus, propriétaires, exploitants, salariés, disparaissaient presque derrière les choses. Dans l'idéal, l'agent du roi n'avait qu'à se trouver sur le champ au moment où le blé sortait de terre pour opérer le prélèvement. Ceci n'avait pourtant aucun sens, ni au niveau de la production. Il y a bien des individus à l'origine du produit, rien ne pousse tout seul. Une économie agricole n'est pas une économie de cueillette, ni au niveau fiscal, ce sont bien des individus qui supportent un prélèvement. Là se trouve l'erreur fondamentale de Vauban, à trop voir les céréales, il ne voit plus les hommes et curieusement, il voit encore moins les privilégiés que les autres. C'est ce que nous allons voir maintenant en passant à une analyse plus détaillée du système. En résumé et sur le papier, le projet de Vauban consiste en une conversion de la taille réelle et personnelle supprimée en une dîme de tous les revenus. L'opération s'accompagnait de la suppression, en principe, de tous les autres impôts directs, capitation, décime pour l'Église, taxe du ban pour la noblesse, donc remplacé par un seul prélèvement. Le projet prévoyait aussi la suppression des indirects, la suppression des aides, taxes sur les boissons, la suppression des traites intérieures, donc des douanes intérieures reportées uniquement à la périphérie du royaume, et enfin la mise pour la gabelle d'un tarif uniforme à 18 livres le minot pour tout le royaume. Seules subsistaient sans changement les taxes domaniales, j'y reviendrai tout à l'heure. Les masses d'imposition constituent ce que Vauban appelle les quatre fonds des... Alors ça, c'est les pour vous donner un petit paysage, la situation des douanes intérieures. Alors là, voilà, hop, les douanes intérieures. Donc vous voyez que la moitié nord du royaume, hormis Bretagne et Est, est déjà très largement unifiée avec cette zone l'étendue des cinq grosses fermes. Le reste du royaume est au contraire très coupé en zones douanières, très hétéroclites dans la dimension, avec des frontières de partout. Les couleurs suffisent à vous faire percevoir la complexité du phénomène. Alors, dans le système de Vauban, il y a quatre fonds. Vous pouvez les voir sur le tableau que je vous ai donné, sur lequel il va caler son système. Le fonds 1 consiste dans les revenus de la terre. Le fonds 2, tous les autres revenus. Le fonds 3, la gabelle. Et le fonds 4, les taxes domaniales. Alors, reprenons de plus près ces fonds. Donc, le premier fonds constitue le cœur de la dîme royale, et il s'agit de dîmer, comme il le dit lui-même, sur tous les fruits de la terre sans exception. C'est là que doit se produire le prélèvement en nature. Alors, d'entrée, il passe sa dîme au 20e, parce que le 10e est jugé d'entrée de jeu beaucoup trop lourd. Alors, donc, le nom de dîme est un nom générique, vous voyez. Mais c'est très fâcheux parce que quand il va y avoir une expérience de la dîme au début de la régence, elle va bel et bien être faite au 10e. Et effectivement, on s'apercevra que le prélèvement était beaucoup plus lourd que ce que demandait le roi habituellement. Donc il l'avait perçu et prévoit donc un prélèvement uniquement au 20e. Donc dans ce tableau, j'ai serré les produits, la matière imposable distinguée par Vauban, et j'ai examiné de près de quoi il s'agissait et comment se passait le prélèvement. Donc normalement, dans le système, on devrait avoir partout une matière imposable bien déterminée et un type de prélèvement, une quotité au 20e établie, sans prendre en compte les individus ni introduire d'autres modalités de prélèvement que ce prélèvement en nature. On s'aperçoit tout de suite que les choses vont dérailler. Même s'il n'évoque pas jamais directement les individus dans ce fonds 1, concernant les revenus agricoles, on s'aperçoit que Vauban va les réintroduire de plusieurs manières, en évoquant la notion de charge et de frais de travail qui ouvrent des réductions. Céréales, c'est un produit primaire, donc 5%, et là on voit apparaître la notion de frais du labourage et de la récolte. Alors, la colonne perception, là, vous voyez, la dîme royale est mise à ferme. Je ne vais pas revenir sur ce problème-là, mais c'était tout à fait ennuyeux, puisque on confiait la gestion, la régie de l'impôt à un groupe de particuliers, chose qui n'avait jamais été faite pour l'impôt direct. Mais ce n'est pas mon sujet là. Ailleurs dans le texte, il fait une allusion possible à un partage de cette dîme entre le propriétaire et le locataire, mais c'est vraiment très allusif, le problème n'est pas posé directement, alors que ce sera un des grands sujets de toute l'administration du XVIIIe siècle, dès l'abbé de Saint-Pierre, donc dès 1715, de savoir comment on répartit la charge entre l'exploitant et le propriétaire. Et donc, je rappelle que Vauban ne veut pas officiellement connaître ni propriétaire ni locataire. Il ne veut connaître que le blé qui sort de terre. Donc, allusion qui semble dire que quand même le problème l'a effleuré, mais il ne l'a pas traité. Pour les vignes, alors là, il nous précise très nettement qu'il faut faire une déduction de la moitié sur la valeur de la récolte pour frais de façon et de vendange. Je rappelle que normalement, il ne doit pas y avoir d'estimation en valeur, puisque justement, nous sommes dans un prélèvement en nature sur le champ, et que c'était tout l'avantage. On n'avait pas à compter, on n'avait pas à faire d'évaluation. Mais voilà qu'il y a une contradiction, puisque si on veut faire une déduction de la moitié sur la valeur de la récolte, il faut bien calculer la valeur de la récolte et calculer aussi les frais de façon et les frais de vendange, donc les frais de main d'œuvre, les frais salariés, des salariés, évidemment. Donc déjà, le système ne fonctionne plus. Alors, et il prévoit également, en face de cette difficulté, que bon, finalement, comme c'est compliqué à prélever en nature, peut-être qu'on pourrait mettre au point un abonnement. Ce qui, évidemment, neutralise totalement l'idée du prélèvement en nature. Pour les bois, c'est la même chose. Donc, on prévoit sur le papier toujours la même proportion, des 5%, mais avec déduction d'un quart de la valeur de la coupe, pour l'intérêt des avances, les gardes, les hasards du feu et des larrons. C'est trop compliqué de percevoir après. Évidemment, vous imaginez, il faut aller chercher les grumes dans le bois, de faire un prélèvement en nature sur une coupe de bois. Donc, il préfère finalement se résoudre à un abonnement réglé sur le 20e de la valeur des coupes calculées à l'arpent. J'ai mis dans la troisième colonne qui paye. Jusque-là, donc, compte tenu de l'incertitude qui règne à la case 1, c'est l'exploitant qui est mobilisé. Les prêts doivent-ils être imposables? Oui, alors, soit en nature, soit aussi avec un abonnement. Vous voyez que dès les premières analyses, on voit que le prélèvement en nature ne fonctionne pas. Pour les pâturages, alors c'est encore plus complexe puisqu'il s'agit de finalement d'imposer ce qu'il y a sur le pâturage, c'est-à-dire les têtes de bétail. C'est ça qui fait la valeur du pâturage, sinon ça serait traité en foin. Et donc, tarif forfaitaire à la tête de bétail. Fruits et légumes, en nature, finalement, c'est peut-être encore le plus simple, comme les céréales. Nous entrons maintenant dans la catégorie du fonds 2, ce qui va être plus intéressant pour mon sujet d'aujourd'hui. Alors, soulignons que cette disparition des individus est le point le plus satisfaisant derrière pour Vauban, parce que son objectif, c'est la suppression des inégalités, des comportements individuels, du favoritisme, et donc par là, il pense atteindre une égalité morale, un système beaucoup plus équitable, en évitant de rentrer dans les considérations individuelles. C'est une des choses qui avait intéressé Vauban dans la taille réelle du sud du royaume, c'est qu'elle fonctionne avec des choses, les compois, les fameux compois, cadastres qui dénombrent la propriété, et qu'elle impose la propriété sans tenir compte des individus, c'est-à-dire du nombre de personnes par famille, des malades, de l'âge ou autre. Dans ce que l'on voit là, c'est que la notion de feu fiscal disparaît. C'est énorme pour l'ancien régime. On entre dans une logique complètement différente. Et donc, le gros intérêt à ce moment-là, c'est de casser effectivement le régime des privilèges individuels. La noblesse, tous les privilégiés perdent leur privilège d'exploitation. Mais, donc, avant de passer au fond d'eux, il faut encore souligner que ce système ne va vraiment fonctionner, et encore, que pour les céréales. Il y a donc, dans le système de Vauban, deux cas. Celui des céréales et celui des autres revenus qui, par la force des choses, est pensé de façon plus sophistiquée. Alors, dans ce deuxième fond, on va voir apparaître un fonctionnement beaucoup moins clair, hein, et, puisque le prélèvement en nature est très peu opératoire. Alors, pour simplifier, j'ai classé en ordre hein, ces revenus en deux types. D'abord, les revenus de la propriété et ensuite les revenus du travail. Vous voyez donc arriver tout de suite dans mon tableau la rente foncière, qui n'est donc plus un produit primaire, qui est bien un revenu. Et cette rente foncière, j'ai mis dans la colonne 4 qu'elle était exemptée de facto. En effet, Vauban a un grand principe qu'il formule de cette façon, un même revenu ne paye point deux fois. En fait, ce qu'il veut dire, c'est plutôt une même source de revenus ne paye point deux fois. Alors, tout le problème vient de là, c'est qu'il y a confusion entre source de revenus et revenus, sachant qu'une même source de revenus peut parfaitement porter plusieurs revenus. Par exemple, dans le cas de la terre, la récolte de céréales va donner un revenu au fermier et un revenu au propriétaire. Et on peut parfaitement imposer les deux. Alors, dans le cas prévu par Vauban, si le revenu d'un propriétaire est en nature, donc métayage, ou dîme de l'église, par exemple, hein, ou rente seigneuriale en nature, comme le champagne, hein, ce revenu du propriétaire en nature est supposé avoir déjà payé en amont par le prélèvement qui a été fait au niveau de l'exploitant. Et donc, le propriétaire est considéré comme ayant déjà payé par un manque à gagner. Tout le monde suit ? Donc, je répète, parce que c'est le point nodal. Si le revenu du propriétaire est en nature, donc régime du métayage, dîme de l'église, qui est un prélèvement en nature, champard, qui est un revenu seigneurial en nature aussi. Le propriétaire est répété avoir déjà payé sa part d'impôt en amont par le moins perçu qu'il aura sur la récolte, puisqu'il métaye, hein, ou il prélève sur une récolte déjà diminuée par le prélèvement ecclésiastique. Très bien. Mais si le revenu est en argent, de fait, l'imposition du propriétaire est impossible. Ce qu'a très bien vu le contrôle général tout de suite et le grand critiqueur de la dîme royale, qui est un dénommé le potier de la S3, dont j'ai publié l'analyse, qui est extrêmement fouillée donc, dès le début. Donc, cette rente foncière est inimposable parce qu'il est impossible au fermier de répercuter sur le montant du bail, en argent, un bail signé pour plusieurs années. Il est impossible pour lui de répercuter un prélèvement en nature, de valeur variable. Donc, suivant les années, il y a des années où le blé vaut cher, des années où il vaut pas cher. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme valeur ? Donc, non seulement de valeur variable, mais même dans le projet de Vauban, de proportion variable. Car pour lui, l'avantage de la dîme, c'est que si on voulait, si le roi avait plus ou moins de besoins, on pouvait éventuellement faire varier le taux de prélèvement. Une année demander 5%, une année 6, une année 3, etc. Et un de ses gros arguments pour Louis XIV, c'était que le prélèvement en nature lui donnerait justement lui donnerait une certaine souplesse qui pourrait ajuster donc à ses besoins. Mais du coup, il est impossible de connecter, en fait, les deux systèmes. Hein, le point clé dans cette affaire de dîme royale, c'est qu'il n'y a pas d'interface, comme on dirait aujourd'hui en langage informatique. Si la rente foncière est en nature, ça marche, parce qu'elle est dans la même logique que le prélèvement qui se fait à la base. Si la rente propriétaire est en argent, c'est terminé. Les deux systèmes ne peuvent plus se connecter, parce qu'ils sont dans une logique complètement différente. Où l'on voit qu'il y a un gros changement lié à ce système, justement, c'est la fiscalisation de la dîme. Donc, c'est la dernière case de mon tableau. La dîme de l'Église, qui jusque-là n'était pas du tout fiscalisée, pas du tout imposée par le roi, eh bien, elle est imposée par contre-coup, par retenue à la source. Puisque, donc, effectivement, l'Église va percevoir moins sur sa dîme, puisque le roi est passé avant pour prélever son dixième. Donc, je tourne ma page, c'est exactement la même chose. Vous voyez les rentes seigneuriales, donc c'est ce que je viens de dire, en nature, type champard, là, le propriétaire est imposé, mais il est imposé par un moins perçu. C'est pour ça que je mets dans la colonne de l'extrême droite « qui paye personne ». De même que sur la page précédente, qui paye personne, parce que dans le clergé, personne ne va payer directement, c'est par un moins perçu. C'est extrêmement important pour l'Église, cela, de ne pas payer directement, car ce à quoi tient par-dessus tout le clergé, c'est pas tellement à ne pas payer, c'est à ne pas être confondu avec le contribuable ordinaire. Et donc, ce que va défendre le clergé mordicus jusqu'à la Révolution française, c'est sa position dans l'État monarchique. Et le clergé est en mauvaise posture, donc puisqu'il est aux prises avec ce qu'on appelle aujourd'hui le processus de confessionnalisation de l'État monarchique, c'est-à-dire la prise en main croissante de la religion par l'État. À gauche, donc, le schéma traditionnel, je l'ai baptisé carolingien. Vous avez grosso modo en haut Dieu, ensuite le clergé, qui est dans une position hiérarchique par rapport au roi. C'est lui le premier ordre, le sacre, etc. Et en dessous, le royaume. À partir du XVIIe siècle et à la suite des guerres de religion, qui ont été l'entrée la religion dans les fonctions primordiales du roi, la situation a changé. Et le clergé est sur un pied d'égalité avec le roi. Donc, clergé, roi, et en dessous, royaume. Donc, le clergé redoute absolument ce qu'il voit se profiler, même s'il ne formule pas les choses comme ça, ça c'est une formulation, évidemment, des historiens, dans le projet absolutiste, c'est-à-dire le ravalement du clergé au rang du contribuable de base, et donc rentrer dans la catégorie royaume. Ce qu'il rejette absolument dans toutes les tentatives fiscales, que ce soit la tentative d'imposition de 1695 de la capitation de Pontchartrain, du 10e de Desmarais, du 20e de Machaut d'Arnouville en 1749 et du projet de Vauban, c'est le fait d'être considéré comme un contribuable ordinaire. Ça, c'est absolument impensable. Donc, finalement, ce système lui irait assez bien, puisqu'il n'a pas à sortir d'argent de sa poche, mais n'est imposé que par contre-coup. Alors, je continue donc dans mon tableau. Je vois que les rentes constituées sur des terres ou sur toute autre chose, de fait, tout ça c'est pas dit clairement c'est dit clairement par Vauban, sont exemptées à l'argument que les biens sur lesquels sont assises ces rentes ont déjà payé. Alors c'est un point extrêmement confus dans la dîme royale, où Vauban nous explique que le propriétaire du bien qui doit la rente, le débit rentier, il aurait le droit de retenir sur le rentier, donc celui à qui il doit payer, la portion de dîme royale qu'il aurait payée. Vous voyez déjà la simplicité de la manœuvre. Alors, ça laisserait entendre que le propriétaire paye la dîme. On va peut-être que c'est ce qu'il ne nous a pas précisé à l'article céréal. Et là, il ne nous précise pas non plus si ce propriétaire débit rentier, il devrait payer en tant que propriétaire ou en tant qu'exploitant. Parce qu'il peut bien s'agir d'un propriétaire exploitant. Enfin, de toutes les façons, la retenue est infaisable, pour les mêmes raisons pour la rente en argent, la rente propriétaire simple. Je continue mon tableau, nous arrivons aux maisons. Je vous rappelle que nous sommes dans le fonds 2, donc tous les autres revenus, autres que ceux de l'agriculture, doivent être imposés. Maisons. Mais là, nous nous apercevons que ce n'est ni un produit primaire qui est imposé, comme les céréales, ni un revenu, comme dans la rente foncière, mais bien un bien foncier. Comment on s'en aperçoit ? On s'en aperçoit d'abord parce que notre Vauban ne fait aucune distinction entre le propriétaire qui occupe sa maison et le propriétaire qui loue la maison, hein, ou le locataire qui n'est pas propriétaire. C'est la logique du système, c'est la chose qui doit payer. La maison, donc. Évidemment, une maison ne sort pas l'argent de sa fenêtre pour payer. Il y a bien quelqu'un qui doit payer. Donc, en fait, nous avons donc un brave impôt foncier sur la propriété de la maison qui fonctionne classiquement, comme dans le système de la taille, en prévoyant des déductions pour les réparations, hein, donc déduction de 1/5 pour les charges. Et donc, ça nous fait un impôt de quotité qui n'est plus de 5% hein, du 20e, mais donc à 4% hein, payé par le propriétaire sur la valeur locative. Nous sommes donc très loin d'un impôt en nature, à proportion fixe et neutre, puisque déjà on réintroduit entre autres la notion de charge. Et donc là, qui paye ? Le propriétaire. C'est exactement la même chose pour les postes suivants, les moulins, les forges, les fonderies, les scieries, les bateaux, les pêcheries, les étangs. Tout cela, ce sont des éléments qui sont des biens fonciers, éventuellement des outils de travail pour les scieries, les forges, hein, qui vont être chargés sur la propriété, sans tenir aucun compte de l'exploitation de la chose. Autrement dit, par exemple, bateau, hein, outil de travail. Vauban nous prévoit une imposition forfaitaire à 5 sous par tonneau, même si les bateaux ne sortent pas de l'année parce que je ne sais pas quoi. Ou les scieries, même s'il y a eu une épidémie de peste et que la scierie n'a pas travaillé de l'année, ça ne fait rien. Hein. Donc, aucun compte de l'activité réelle. Nous avons donc un impôt foncier établi sur la valeur locative de tous ces biens, avec prévision aussi de déduction pour les réparations. Alors, pour certains points, c'est encore plus flou. Vous voyez, pour les pêcheries et les étangs, qui sont des biens fonciers importants, Vauban nous dit simplement « on doit les imposer ». Mais comment ? Nous ne savons pas. Alors viennent ensuite les salaires, qui, comme souvent, sont les points les plus faciles à imposer. Les gages, les pensions, les gratifications du roi, là nous retrouvons des revenus qui sont imposés par retenue à la source, c'est le plus facile, au trésor de l'épargne. Les gages des domestiques, c'est le même système normalement, mais il ne nous dit rien. Donc on ne sait pas si ce sera imposé par retenue sur l'employeur, comme c'est le cas dans le système de la taille où le patron paye une capitation des domestiques, ou si c'est l'employé qui va verser directement. Je tourne ma page et vous voyez que j'étais donc au gage, hein, aux pensions, etc. Et je vois arriver cette fois-ci non plus des biens fonds, non plus des produits primaires, non plus des revenus, mais je vois arriver des catégories sociales listées en tant que telles. Les officiers de justice, les procureurs, les avocats, les notaires, toutes les professions libérales, sur lesquelles il prévoit une retenue à la source pour les officiers de justice, c'est facile sur leur gage, et sur les épices qui sont enregistrées, là c'est le plus simple, c'est réglé par le trésor de l'épargne. Remarquez donc l'hétérogénéité des postes d'imposition, hein, qui ne sont absolument pas comparables les uns avec les autres, hein, depuis le fonds 1. Pour les professions libérales, bon, taxation forfaitaire, hein, c'est la procédure de l'abonnement finalement qui est retenue aussi, de 15 livres chacun, donc réputée être du 20e. Ce coup-ci, donc, ce n'est plus une retenue à la source par le Trésor de l'épargne, ce n'est plus un système de prélèvement confié à une compagnie fermière, comme pour les revenus agricoles, c'est un impôt de répartition, tout simplement, qui sera géré par le corps professionnel lui-même, qui tâchera de calculer la pratique moyenne annuelle. En fait, il y a un très gros problème de compatibilité entre un impôt de répartition. Là, on va leur dire, il faut que vous nous donniez tant. Et puis, un impôt de quotité censé être de 5%. Donc, on se défausse de ce problème de gestion, qui est majeur, hein, sur le corps. Là, donc, toutes les professions jurées et organisées encore. Donc là, qui va payer? Eh bien, c'est à deux niveaux. Les officiers, le procureur par exemple, ou l'avocat, hein, au corps des avocats, et puis ensuite le corps lui-même, ou le corps des, je sais pas, la corporation des tapissiers par exemple, à leur corporation, hein, qui payera lui-même au roi par abonnement. Arrivent enfin peut-être les points les plus délicats avec, par exemple, avec le commerce. Alors, pour le commerce, c'est extrêmement difficile et Vauban ne sait pas trop que faire. Il ne sait pas s'il faut taxer, ni comment il faut le taxer. Donc, je vous cite le passage en question. « Je laisse en surséance l'article du commerce sur lequel je serai d'avis de n'imposer que très peu et seulement pour favoriser celui qui nous est utile et exclure l'inutile qui ne cause que de la perte. » Il serait à souhaiter qu'il plût au roi de créer une chambre composée de quelques anciens conseillers d'État et de deux fois autant de maîtres des requêtes choisis avec tous les subalternes nécessaires pour entrer en connaissance de ce qui serait bon ou mauvais ou au commerce. Vous voyez, là, on crée une commission pour étudier la question. En fait, sur le fond, Vauban étant mercantiliste, comme l'avait bien détecté la revue historique en 1896, et donc comme tous les mercantilistes de son temps, il est très hostile à la taxation du commerce, qui est le secteur moteur hein, du moment. Sur la méthode également, même si on voulait le taxer dans le système de Vauban, comment faire? Il a supprimé toutes les aides, il a supprimé toutes les traites. Or, ces taxes sont pourtant le grand moyen de taxer le commerce. Par exemple, l'activité des marchands de blé. Comment faire? Comment taxer l'activité du marchand de blé? On ne peut pas taxer le blé lui-même, c'est déjà fait avant. Mais on ne peut pas taxer non plus une entreprise, un local, comme une scierie ou toute autre usine. On ne peut pas taxer un matériel, comme les bateaux. Donc, le moyen de taxer le marchand de blé, c'est bien de lui faire payer des droits de douane, les traites, dans sa circulation, de faire payer l'accès au marché. Mais comme pour stimuler la circulation, donc, il a tout supprimé, il n'y a plus de moyen pour taxer le commerce. Il ne sait donc plus comment faire. Les billets aux porteurs. Ce que nous appellerons les valeurs mobilières aujourd'hui. Là, c'est tout simple. Commerce illicite contre les lois de l'Évangile et celles du royaume, ils ne doivent pas exister. Donc, tout ce que nous appellerions revenus financiers aujourd'hui sont passés par profits et pertes. C'est quelque chose qu'il ne veut pas, hein, qu'il ne veut pas connaître. C'est un des grands points faibles qui sera relevé par les économistes libéraux du 19e siècle. Vauban refuse de connaître tout ce qui est appareils bancaires, produits financiers, actions, billets aux porteurs, tout un trafic monétaire, jeu d'échange, jeu d'écriture, qui lui paraît, donc, comme il le dit, contre les lois de l'Évangile. Donc il s'abstient là-dessus. En revanche, et pour terminer sur ce deuxième fond, nous voyons arriver le cas des artisans, des compagnons, des maîtres et apprentis, et ensuite des journaliers. Alors là, c'est extrêmement intéressant, parce que depuis le début, j'ai dit qu'il refusait de connaître les individus pour ne connaître que les choses, à l'argument de l'objectivité. Mais ça, ce n'est vrai, en fait, on s'en aperçoit que pour le monde agricole. et le monde agricole et encore des exploitants. Dès qu'il a affaire aux artisans ou à des catégories salariées plus fragiles comme les journaliers, il va descendre dans le détail de leur situation. Donc il prend bien en compte les situations réelles des artisans ou des compagnons, maîtres, apprentis, journaliers. Et il prévoit des charges réelles à déduire. Ce qui peut leur revenir de produits nets, il veut calculer le temps qu'ils perdent, quand il y a du gel par exemple et que les maçons ne peuvent pas travailler. On peut même ajouter quelques jours d'infirmité. Et il prend en compte les frais de louage de maison, les frais pour se vêtir, lui, sa famille, nourrir une femme et des enfants, lesquels souvent ne sont pas capables de gagner grand-chose. Donc, c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit que la notion de charge réelle sur un revenu ne lui est pas étrangère, puisqu'il la détaille très largement pour les revenus des artisans et journaliers. En revanche, il en fait une abstraction totale pour ce qui est de l'exploitant agricole lui-même, comme si les céréales cachaient tout le reste. La prégnance du produit agricole est telle qu'il a l'impression que ça pousse tout seul et on prélève sur le produit. Chose qu'il ne peut pas faire, évidemment, avec les salariés agricoles en particulier. Alors, le troisième fonds, c'est le troisième et quatrième fonds qui viennent après, qui sont donc la Gabelle, d'abord, troisième fonds. Alors, la Gabelle, donc, il nous prévoit... voilà la situation. Il nous prévoit un tarif unique pour tout le royaume de la Gabelle. Donc, voyons en vert les pays de Grande Gabelle et les pays de Petite Gabelle. En gris, les pays complètement exempts, c'est-à-dire la Bretagne exempte de taxes à la consommation. La Bretagne, le Labour, la région de Bayonne et le Béarn ici, et puis vous avez Arles qui a un statut particulier parce qu'il y a tout plein de salines, évidemment, la vallée de Barcelonnette, et puis ça s'est rattaché en 1713, la carte est du 18e siècle, et le nord de l'Alsace et le duché de Rethel. Les pays rédimés ont un tarif spécial, beaucoup moins élevé. En fait, il ne faut pas croire que les pays non gabellisés, non en vert, ne payent rien. Je vous rassure tout de suite, la monarchie récupère d'un côté ce qu'elle a donné de l'autre. Les pays de Gabelle sont imposés à la consommation. Tous les autres payent à la circulation. Alors, il n'y a que les Bretons qui sont très favorisés parce que le sel breton paye à l'exportation. Donc, le sel qui sort de Bretagne... rapporte au roi, mais le sel que consomment les Bretons, effectivement, n'est pas taxé. Donc voilà la situation, et Vauban nous propose la constitution d'un marché du sel complètement intégré et unifié, avec un seul tarif à 18 livres, le minot. Alors voilà la taxe, les prix du sel, du temps de Necker, c'est le premier qui nous fait une carte. Il est très important dans l'histoire de la cartographie Necker, donc là j'ai retraité sa carte, mais c'est le premier qui fait une carte thématique et où il cartographie des zones avec des prix. C'est extrêmement intéressant. Donc en vert foncé, vous avez les zones où le prix du sel est le plus cher. Donc nous naviguons dans les zones entre de 54 à 61 livres le minot. Un minot, ça fait à peu près 50 kilos de sel. Vous voyez qu'ici en Bretagne, on est à 2 livres les 50 kilos de sel. Donc vous imaginez évidemment la contrebande qu'il y a de ce côté-là. Les pays rédimés ici sont entre 6 et 10 livres le minot. Pays de Petite Gabelle sont entre 20 et 30 livres le minot à peu près. Donc voilà ce qu'il va falloir unifier. C'est extrêmement dangereux et c'est explosif comme situation. Alors Vauban trouve finalement, qui est conscient quand même de la chose, révolte du papier timbré, que j'ai montré tout à l'heure aussi, grande révolte contre la Gabelle en Bretagne, 1775. il propose de laisser subsister le tarif des provinces rédimées, parce que de toutes les façons, elles payent déjà moins cher, hein, donc elles vont s'y retrouver. Autrement dit, cette zone-là, on n'y touche pas. Hein. Les pays de grande et de petite gabelle vont être très contents parce que effectivement, ça va leur baisser leur note. Si on les paye, si on les met à 18 livres le minot, ce sera beaucoup moins cher. En revanche, on ne garantit rien sur ce qui va se passer en Bretagne, dans le Nord et dans l'Est et en Béarn. En Béarn, naturellement. Cela dit, il prévoit lui aussi des cas spéciaux. Encore des cas spéciaux. On voit que cette dîme royale n'est que ça. Hein, malgré cette belle affirmation de principe, prélèvement en nature de 10% sur tous les revenus, il prévoit un tarif spécial pour tous les ports de mer qui font poisson salé, pour éviter qu'ils n'aillent acheter aux Anglais du sel moins cher venu du Portugal. Autrement dit, on va avoir introduction de la gabelle dans un quart du royaume, maintien de zones favorisées, comme les pays rédimés, les ports qui font du poisson salé, qui risquent fort de fonctionner comme des paradis fiscaux. Et la situation est à peu près sans grand changement. Enfin, donc je termine par ces tarifs, ces droits du quatrième fonds, domaine. Alors, il appelle ça fonds fixe parce que les tarifs ne doivent jamais changer. Donc, les parties casuelles, c'est les achats d'office, etc. Les droits de fonds fief, amortissement, les amendes, les épaves, les confiscations, tout ça, c'est du très classique. Mais il laisse subsister, bien qu'il ait dit tout à l'heure qu'il voulait supprimer toutes les traites, hein, il laisse subsister quelques traites, quelques douanes. C'est le convoi de Bordeaux, ici en vert, la traite de Charente, les 35 sols de brouage qui sont ici, là, et le labour qui est ici. Parce que, de fait, ce sont des douanes qui portent à 95% sur le sel. Donc, c'est ça qui lui permet de laisser intacte la situation des pays rédimés. Parce qu'il laisse ces traites-là, qui, de fait, sont le système local pour imposer le sel. Ça lui simplifie considérablement la vie. Et en plus, donc, vers l'intérieur, vous voyez, c'est une taxe sur le sel. Et vers l'extérieur, il est cohérent avec lui-même, puisqu'il repousse ses douanes aux frontières du royaume et qu'on est bien au bord de la mer. On est bien au bord de la mer. Donc, ça lui permet de faire une pierre de coup. Enfin, il termine par quelques taxes qui sont bien intéressantes, qu'il met dans son quatrième fond, qui sont des taxes, en fait, sociales. Hein. Il a gardé quelques taxes à la consommation, donc quelques aides, hein, pour leur donner leur nom, qu'il a sélectionnées dans une perspective morale plutôt que fiscale. Il va taxer en effet des produits de luxe, comme le thé, le café, le chocolat, le tabac, les dorures sur les meubles, les perruques qui sont trop grandes. Hein. Et il va taxer aussi la vanité sociale. Il taxe le port de l'épée par ceux qui n'y ont pas droit, hein, n'étant, dit-il, ni gentilhomme ni gens de guerre. Il taxe aussi l'usage des carrosses par ceux qui, je cite, n'étant point de condition à avoir de tels équipages, mériteraient d'en acheter la permission un peu chèrement. Il pense qu'en plus que ça améliorera la circulation dans Paris. Et il va taxer aussi la consommation d'eau de vie, donc taxe sur les boissons et tous les alcools, etc., uniquement dans les cabarets. Uniquement dans les cabarets. Donc, il insiste bien pour dire qu'on ne doit pas taxer les boissons alcoolisées quand elles sont consommées à la maison. C'est donc bien une taxe sur le comportement social. Au total, si je récapitule tout ce système, j'arrive à ce petit tableau. Et c'est là qu'on s'aperçoit, en faisant les totaux, que l'on a finalement un système qui, dans l'un de vos lances, hein, avantage considérablement les catégories sociales dominantes de la société du temps de Vauban. Alors, donc, j'ai fait des plus et des moins, j'ai compté tout ça. C'est un peu rustique, mais c'est assez efficace. Alors, à part les différents postes. L'exploitation, donc, première ligne, qui est imposée en pays de taille réelle. Ça, c'est très important. Donc, puisque en pays de taille réelle, l'exploitation n'est pas imposée. Alors, je le redis, il n'y a que la propriété, la taille réelle est un produit, est une taxe foncière. Qui perd là-dedans ? Alors, les paysans qui sont exploitants à tous les coups, ils ne payaient rien. Là, ils payent sur leur exploitation. Pour la noblesse et les privilégiés, la perte est limitée parce qu'ils exploitent directement fort peu. Hein, ils donnent massivement à bail. Même chose pour les bourgeois citadins. Hein, ils exploitent eux-mêmes fort peu. Ils donnent à bail. Donc, ça les touche fort moyennement. Pour le clergé, j'ai mis neutre, point d'interrogation. Pourquoi point d'interrogation ? Donc, toute la question, de même que pour mesurer la perte pour la noblesse ou pour les bourgeois citadins, étant de savoir dans quelle mesure l'imposition de l'exploitation va être répercutée sur le montant des baux, donc sur leurs revenus à eux. Et ça, c'est pas du tout évident, hein, de savoir s'il y a possibilité de répercuter sur le montant d'un bail. C'est pour ça que je ne me prononce pas. L'exploitation imposée en pays de taille personnelle, bon, pour les paysans, pas de changement. J'ai mis égal. Pour le clergé, c'est neutre. Le clergé ne travaille pas la bêche à la main, n'exploite pas lui-même, pas de changement. Pour les bourgeois des villes qui ont des exploitations, ils sont déjà imposés. Par contre, pour la noblesse, qui a un privilège sur d'exploitation, là, il y a une perte aussi, qui est limitée, parce qu'une grande partie de ces biens est donnée à bail. Donc, là aussi, la question est dans cette répercussion encore de l'imposition de l'exploitation sur un bail. Éventuellement, ça se discute. Gros perdant dans la taille personnelle avec les paysans, avec la fin de la procédure d'arbitrage, avec cette loi d'airain qui s'applique dans le système de Vauban, des 10%. Dans la taille personnelle, l'élément clé, c'est la discussion qu'il y a dans la communauté d'habitants, dans chaque paroisse, pour savoir comment on va répartir l'impôt. Et c'est là que se fait l'arbitrage en fonction des situations individuelles. Toi, tu as 6 enfants, toi, tu t'es cassé la jambe, toi, tu as été malade, et on arbitre chaque année en fonction des situations réelles. Du temps de Vauban, l'administration ne le sait pas, parce que ça n'est absolument pas mis par écrit. À la fin du XVIIIe siècle, nous le voyons, avec l'intendant de Paris, ici, qui a réussi à faire mettre le détail des opérations par écrit, et ça n'a pas été une mince affaire. Vous voyez ici, nous avons la bonne, la veuve Jean. Alors, elle a une maison qu'elle tient à loyer, etc. Et ici, il y a écrit « très pauvre ». C'est une commune qui s'appelle Genvry, qui est dans l'Essonne. Elle n'est pas seule dans son cas. Hein. Plusieurs fois, on trouve cette mention-là « très pauvre » ou on trouve « orphelin » ou d'autres mentions particulières qui nous font toucher du doigt la réalité de l'arbitrage entre les habitants d'une même paroisse pour équilibrer au mieux le fort portant le faible, comme on dit à l'époque, la répartition de la taille. Ceci disparaît totalement dans la dîme royale qui, justement, c'est le principe, refuse de connaître les situations individuelles. Suppression des traites et des aides. Alors, j'ai mis pour les paysans gagnent plus ou moins. Qui sont les grands payeurs des traites, des douanes et des aides ? Ce sont massivement les citadins. Ce sont le gros des traites et des aides sont les droits d'entrée dans les villes. Hein. Ce sont les droits d'entrée dans les villes. Et ce sont les gens qui se déplacent ou qui achètent des produits qui viennent de loin. Le paysan qui reste chez lui, il va payer beaucoup moins de traites ou d'aides par répercussion. seulement sur les choses qu'il achète, que les citadins. Donc, par position, noblesse privilégiée, bourgeois urbains, clergé, qui sont dans les villes, sont très, très, très gagnants à cette suppression des traites et des aides. Au contraire, taxation du vin au cabaret. Qui va au cabaret ? Là, le paysan, qui, lui, va être tout à fait perdant. Alors que nos Parisiens, qui vont boire au cabaret, beaucoup moins cher, puisque toutes les entrées dans Paris sont supprimées. Les entrées de Paris qui font décupler le prix du vin dans Paris, qui jusque-là faisait que tout le monde allait boire son vin en dehors des, dans les guinguettes, en dehors de Paris. Donc, la taxation du vin au cabaret, elle va être neutre pour la noblesse, les privilégiés, les citadins, le clergé, qui va équilibrer, si vous voulez, tout l'un dans l'autre. On leur supprime les traites, c'est peut-être plus cher au cabaret, mais pour eux, c'est donc absolument égal. Hein. Ils récupèrent d'un côté ce qu'ils ont perdu de l'autre. Alors, pour l'unification de la gabelle, ben, tout le monde est un petit peu au même plan. Ça dépend où on habite. Hein. Donc, on gagne plus ou moins. Je continue. La rente foncière, donc, elle n'est pas imposée, comme on l'a vu. Donc, gagnant, 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 pour ceux qui ont des rentes foncières, qui sont propriétaires, la noblesse, les privilégiés, les bourgeois citadins, le clergé. Neutre hein, pour le paysan exploitant. La rente seigneuriale n'est pas imposée quand elle est en argent. Quand elle est en nature, on a vu que c'était assez complexe. Donc, elle n'était pas imposée non plus. Donc, c'est égal pour les trois premières catégories, c'est neutre pour les paysans. La rente d'État, elle n'est pas imposée non plus. Hein. Quand vous achetez une rente sur l'hôtel de ville, elle est exemptée, elle est défiscalisée hein, de façon tout à fait officielle. C'est un argument de vente. On ne commencera à essayer de la fiscaliser qu'au XVIIIe siècle et encore, ça ne marchera pas. Donc, pas de changement pour les trois premières catégories. C'est neutre pour le paysan qui en achète assez peu. Il y en a qui en achètent des rentes sur l'hôtel de ville, mais ce n'est pas décisif. Les produits financiers, on a vu qu'ils n'étaient pas imposés. Hein, donc, égal, pas de changement là-dessus. Neutre pour les paysans. En revanche, Vauban n'oublie pas de supprimer pour la noblesse la taxe du ban. Hein, le ban et l'arrière-ban, ils ont été supprimés comme prestation en nature, hein, mais ils ont été fiscalisés. Hein, 250 à 300 livres par an, quand même. Hein. Le revenu estimé d'un journalier par Vauban, c'est 90 livres par an. 300 livres par an, c'est pas négligeable. Ils veillent bien à la supprimer, cette taxe du ban hein, pour la noblesse. Il prévoit aussi, pour faire passer la pilule, il ne dit pas ça comme ça, mais presque, hein, de l'imposition de l'exploitation des nobles, qu'il faudrait leur réserver les hauts emplois d'État et d'Église, les hauts emplois judiciaires, administratifs, militaires. Ce sera fait au XVIIIe siècle, ce n'est pas fait sous Louis XIV. La mobilité sociale, elle est plus importante sous Louis XIV que sous Louis XVI, ce n'est pas fait. Donc, il propose un monopole des hautes positions sociales institutionnalisées, gagnant donc pour la noblesse. Il propose aussi que le roi leur donne une préférence systématique pour la collation des bénéfices qui sont supérieurs à 6000 livres. Gagnant encore, perdant bien sûr pour les bourgeois hein, dans ces deux postes-là. La fiscalisation de la dîme, on l'a vu, là, ça c'est le clergé qui est perdant, mais il équilibre la situation pour le clergé, puisqu'il prend soin de supprimer les décimes et le don gratuit. Oui, je m'arrête. Et enfin, donc, suppression, taxation des fameux signes extérieurs, les perruques, etc. Gagnant pour la noblesse qui voit consolider son profil social et perdant, bien sûr, pour tous les bourgeois gentilshommes hein, qui voudraient bien se faire passer pour des nobles. Donc, le total, vous voyez, alors j'ai surligné là en couleur ce qui est net. Hein. La noblesse gagne en net 6 points, en perte nette, rien du tout. Hein. Les paysans, au contraire, gagnent en net rien du tout, mais perdent 3. Et donc, situation plus mitigée pour les citadins, hein, bourgeois, et pour le clergé. Donc, incontestablement, dans ce système de la dîme royale, on a une organisation qui fonctionne hein, au profit d'un ordre social. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, évidemment, c'est que, comme aurait dit Lucien Febvre, tout ça relève de l'outillage mental du maréchal de Vauban. on n'en est pas du tout encore au XVIIe siècle à interroger leur nos sociales, ce que l'on fait outre-Manche, où Hobbes et Locke sont déjà au travail pour questionner l'ensemble du système social, pas du tout hein, de ce côté-ci de la Manche. Donc voilà ce que je voulais dire dans ce fameux bouclier fiscal, qui me paraît quand même assez clair dans l'analyse de ce système. Je vous remercie. Voilà, je termine donc par cette très belle citation de Voltaire. Le maréchal de Vauban, le premier des ingénieurs, le meilleur des citoyens, homme toujours occupé de projets, les uns utiles, les autres peu praticables et tous singuliers.